Alors Internet, c'est pour nous aujourd'hui, pour vous, pour nous, un outil très intéressant qui présente un potentiel vraiment vaste et fabuleux. C'est une révolution qui est à l'égal de celle de l'imprimerie. On est au cœur d'une révolution dont on n'a pas encore estimé véritablement l'impact. Internet et la possibilité de se connecter, de communiquer avec le monde entier, ça fait rêver. C'est vraiment une nouvelle forme pour nous de communiquer ensemble. Alors il y a une caractéristique notamment d'Internet qui est particulièrement intéressante, c'est son caractère d'illimité. Internet n'a pas de frontières, c'est justement ce qui fait que je peux me connecter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et puis entrer en correspondance avec quelqu'un qui se trouve être en Australie ou ailleurs. Internet donc, n'a pas de frontières, physiques du moins, ni de limite de temps. Je peux, je le disais tout de suite, je peux me connecter à n'importe quel moment. Il y a une notion de persistance, de permanence, je peux y aller tout le temps quand je veux. Alors si Internet est illimité, c'est à nous, c'est à chacun d'entre nous de trouver des limites justement avec cet outil. La plupart d'entre vous le savent, moi en tous les cas c'est comme ça que je l'éprouve. Quand je me dis que je vais me connecter 5 minutes, en général j'y passe beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. On dit d'Internet qu'il est chronophage, que c'est difficile donc du coup une fois que je suis... entrer dans ce monde d'Internet et de toutes ces possibilités, de naviguer sur tout l'ensemble des sites, eh bien, c'est vrai que c'est compliqué de s'arrêter. Ça va être une des questions. Aujourd'hui, ma question plus générale autour d'Internet, c'était comment est-ce qu'on se pose des limites? Comment on fait quand on est face à un outil qui offre l'illimité? Nous-mêmes, on peut essayer de se poser des limites. C'est difficile donc de déterminer des limites d'un point de vue temporel, puisque si j'ai envie, je peux y rester des heures et des heures jusqu'à épuisement. Moi, ce sont les situations que je rencontre à l'hôpital Marmottan, justement. C'est-à-dire de jeunes gens, généralement, qui passent leur nuit tout entière sur Internet, à participer à différentes choses. Ça peut être des jeux, mais ça, j'y reviendrai plus tard, mais ça peut aussi être des chats, des échanges, des blogs, des sites, etc., de toutes sortes. Donc c'est difficile de déterminer d'un point de vue temporel des limites. Alors on peut peut-être aussi s'interroger sur ce qu'on peut trouver sur Internet. Sur Internet, il circule à peu près tout et n'importe quoi. C'est formidable toute cette information, mais en même temps, il y en a vraiment de toutes sortes. Au niveau des contenus, il y a un contenu par exemple qui pose énormément de questions, c'est la question de la pornographie sur Internet. Sur Internet, au niveau du nombre de sites existants, ce qu'il existe le plus, au niveau quantitatif, ce sont les sites pornographiques. Il y a une très grande présence de sites pornographiques sur Internet. On sait aujourd'hui que c'est très accessible et que la plupart des jeunes gens se sont déjà rendus sur ce type de site. Quel impact ça a sur leur existence? À quoi ça les fait penser? Comment est-ce qu'ils ressentent ces images qui sont souvent très crues et très violentes? Toutes ces questions sont ouvertes et ont tendance à nous inquiéter. Sur Internet, il n'y a pas que des histoires de sites porno, il y a aussi tout un tas de groupes qui se développent, des groupes qui peuvent avoir des tendances un peu sectaires, voire proposer des idéologies qui peuvent être dangereuses. Parce que, par exemple, je pense notamment à tout ce qui concerne les sites d'anorexiques. Vous voyez un peu ce genre de phénomène? Alors, en fait, tous ces contenus différents qui circulent, il faut pouvoir les critiquer, il faut pouvoir les analyser et les critiquer. Il y a aussi une autre question qui revient très souvent au sujet d'Internet et particulièrement des jeux vidéo, c'est celui de la violence. Alors, souvent, on a tendance, ou les médias ont eu tendance à amalgamer la question des jeux vidéo avec celle de la violence. On pense surtout à des jeux type first-person shooter, les types Counter-Strike, j'imagine que vous les connaissez mieux que moi, où l'enjeu est principalement de tuer tous les personnages, tous les ennemis que je vais rencontrer sur mon trajet. Sur ces jeux-là, il y a eu un certain nombre de polémiques. On s'est inquiété, on s'est demandé qu'est-ce que ça peut avoir comme impact le fait de visionner des images violentes au cours d'un jeu, et surtout même d'y participer, puisque là, vous êtes actif, et d'y participer. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de passer à une violence réelle, dans IRL, in real life? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de reproduire ce que j'ai pu vivre devant cet ordinateur dans la vie réelle? Cette inquiétude, elle a été, comment dire, alimentée notamment par des drames. Le drame, par exemple, du lycée de Columbine. Je pense que tout le monde situe cette histoire, mais je vais en reparler. Donc, c'est aux États-Unis, c'est dans ce lycée que deux jeunes gens, deux lycéens, sont entrés armés et ont tué une dizaine de leurs camarades et professeurs. Ensuite, ils se sont eux-mêmes suicidés. Et les médias, la manière dont ils ont relayé cette histoire, c'est de se dire que ces jeunes-là, eh ben, ils jouaient aux jeux vidéo, à des jeux vidéo violents, notamment les FPS, et donc certainement qu'il y aurait eu une source d'inspiration vers ces jeux. Je pense que c'est un raccourci. La plupart des joueurs de jeux vidéo ne sont pas du tout des gens violents. Et le fait de jouer aux jeux vidéo ne va pas justement induire forcément des comportements violents chez les personnes qui y jouent. Bien au contraire. Très généralement, quand on joue aux jeux vidéo, c'est pour se délasser, c'est pour se détendre, c'est pour exprimer un certain nombre de pulsions. Et c'est bien moins dangereux justement de tuer dans le virtuel que de tuer dans le réel. Et peut-être même qu'on est là à se vider d'un certain nombre de pulsions dans ces jeux plutôt que de devenir soi-même violent. Mais quand même, être exposé à toutes ces images violentes, est-ce que ça n'a pas des conséquences sur notre existence? Il semblerait, en fait, que le fait d'être soumis, comme ça, à des images violentes, ça n'a pas de conséquences directes sur notre propre comportement, ne serait-ce que ça nous rendrait assez indifférents à la souffrance des autres. Finalement, à force de voir, même par des images, que ce soit par des films ou que ce soit par des jeux vidéo, des scènes de violence, on deviendrait moins sensible à la souffrance des autres. Donc on se détacherait plus les uns des autres. Une autre question qui m'apparaît être aussi importante concernant Internet, c'est la question de l'intime. Aujourd'hui, il y a un nombre de réseaux de sociabilité sur le même modèle que Facebook qui se sont développés et que nombre d'entre vous certainement utilisent. Les chats, MSN, tous ces nouveaux outils pour communiquer, c'est vraiment très attractif et ça, c'est très très investi, notamment par les plus jeunes. D'ailleurs, avec Mathilde, on se demandait mais comment ils font pour autant entretenir, par exemple, leur page de Facebook. Il faut du temps, il faut investir du temps pour pouvoir être véritablement bien à l'aise sur son Facebook. Donc, au sein de ces réseaux de sociabilité, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des informations personnelles. Pour s'inscrire sur Facebook, déjà, on va vous demander votre âge, si vous êtes un homme ou une femme, on va vous demander un nom ou un pseudo, en tous les cas, un nom par lequel on va pouvoir vous reconnaître. Et donc, je vais mettre un certain nombre d'informations personnelles. Ces informations personnelles, la première chose, par exemple, qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, elles ne s'effacent jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on les enregistre et on peut, par exemple, mettre un certain nombre de photos parce qu'on trouve ça rigolo, qu'on a passé une bonne soirée, que finalement, c'était marrant de se prendre en photo quand on était complètement bourré. Et ça nous a plutôt fait marrer sur le coup et on avait envie de le partager avec des copains qui étaient un peu plus loin. Et c'était bien plus pratique que ça se passe de cette manière-là. Eh bien, sur Facebook, même si vous l'enlevez, cette photo, si vous la supprimez, elle reste enregistrée, en fait. Donc, ce qu'on inscrit, ce qu'on publie, ce qu'on enregistre sur Facebook ou ce style-là de réseau de sociabilité, même si ça s'efface en quelque sorte, ça n'est pas oublié, c'est enregistré dans une mémoire. Ça, c'est un premier élément. Déjà à réfléchir, parce que si aujourd'hui je suis fière peut-être de mon état d'ivresse d'un soir, dans 10 ans, si je suis face à un employeur qui s'est dit « je vais aller examiner tout ça, enfin ce qu'il a été », peut-être que ça passera moins bien. Peut-être que ça ne sera plus en tous les cas mon actualité et ça me dérangera peut-être plus qu'autre chose. Mais ce n'est pas seulement ça. Qu'est-ce qu'on peut publier sur Facebook? Qu'est-ce que je peux dire de moi en sachant qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes que ce que je n'imagine qui vont pouvoir regarder les informations que je dispose à l'intérieur de Facebook? Très souvent, quand on en discute, la plupart des gens vont vous dire « Moi, sur mon Facebook, je me suis autorisée à mettre ces photos-là, etc. » Et ils vous racontent « Moi, je suis dans ma chambre, tout seul, face à mon ordinateur, et je suis tranquille. Et là, je me dis « Tiens, j'aimerais bien qu'ils voient ces photos-là. Je vais mettre ces photos-là, puis je vais mettre ces informations-là, puis je vais peut-être même faire circuler, une rumeur ou des choses, en tous les cas. » Moi, je suis tout seul dans ma chambre. J'ai l'impression que il n'y a que moi face à mon ordinateur. En réalité, cette information, on ne s'en rend pas compte. Et la situation même dans laquelle on est seul dans sa chambre ne nous laisse pas penser qu'en fait, ça va être lu par beaucoup plus de personnes que ce qu'on imagine. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir accès à des informations que peut-être vous n'auriez pas souhaité qu'ils aient accès à ces informations. Mais c'est vrai que la situation en elle-même, au départ, on a un peu l'impression qu'on est tout seul. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple du blog. Les blogs, on a souvent comparé ça à un journal intime. C'est pas un journal intime. En tous les cas, dans le monde des adultes, qui s'y connaît peut-être un petit peu moins, quand on explique aux adultes, ou ce qu'en comprennent les adultes, c'est de se dire « mais c'est un journal intime, le blog ». C'est pas du tout un journal intime, c'est un journal certes, mais il n'est pas intime, puisque la plupart du temps il va être partagé avec d'autres. Mais on a cette sensation comme ça que ça ne va pas être partagé. Je ne suis pas sûre que si vous écrivez dans un journal et que vous le cachez, mettons, sous votre lit, vous ayez tellement envie qu'il y ait beaucoup de gens qui le lisent. Et là, sur Internet, c'est à ça qu'on s'expose. Donc il y a vraiment à réfléchir sur les informations que je souhaite donner sur moi, sur Internet, parce qu'elle risque aussi de me poursuivre. Alors, je vais parler un peu plus maintenant de ce qui me concerne, moi, de ce que je vois au niveau de l'hôpital où je travaille, concernant ce qu'on peut appeler l'addiction aux jeux vidéo. Alors, l'addiction aux jeux vidéo, c'est un phénomène tout nouveau, que les médias ont largement relayé. On a entendu beaucoup de choses à propos des jeux vidéo, et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que souvent la manière dont parlent les journaux ou la télévision des jeux vidéo, c'est très généralement de manière assez négative. Hein, les jeux vidéo sont à peu près accusés de tout, surtout d'ailleurs, ils sont accusés d'encourager la paresse, ils sont accusés d'encourager la violence aussi, voire peut-être d'induire un comportement addictif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'addiction ? L'addiction, c'est une forme particulière de lien. Je vais essayer d'expliquer. Dépendant, on l'est tous. Dépendant, on l'est les uns des autres, de ses parents, de ses études, de ses copains, de ses animaux, de sa voiture, d'un certain nombre, de son sport qu'on aime bien faire, etc. Dépendants, on l'est tous, et généralement même, on a plusieurs types de dépendance. Et on passe de l'une à l'autre, comme ça, au fur et à mesure de la journée. L'addiction, c'est une forme tyrannique de cette dépendance. L'addiction, c'est la perte de liberté de s'abstenir. Ça veut dire, je ne peux plus m'empêcher de réaliser ce comportement. L'addiction, c'est une aliénation. Je suis prisonnier d'un comportement. Je souhaiterais l'arrêter. Et généralement, d'ailleurs, les joueurs de jeux vidéo, moi, que je rencontre, quand ils viennent me voir, ils ont une manière de jouer qui est routinière. C'est quasiment un travail à plein temps. Ils jouent 40, 50, 60 heures par semaine. Ils sont assez lassés par leur activité, mais ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et c'est pour ça qu'ils viennent me rencontrer à l'hôpital. Ils n'arrivent pas à s'arrêter et ça leur fait beaucoup de souffrance. Et c'est pour cette raison-là qu'on va les recevoir. Alors, ces joueurs, on les reçoit depuis environ 2001-2002. Donc, le phénomène est assez récent, hein, une dizaine d'années. Mais ils ne viennent pas pour n'importe quel type de jeu. Vous le savez mieux que moi, il existe plein de jeux vidéo différents. L'univers des jeux vidéo est vaste et complexe. Ce pour lequel viennent ces joueurs, c'est ce qu'on appelle les MMORPG. Alors peut-être vous connaissez ce terme, moi jusqu'à il n'y a pas si longtemps je ne le connaissais pas. MMORPG, ça signifie Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Autrement dit, c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Et je vais citer quelques titres, je pense que vous en connaissez quelques-uns parmi ceux-là. Alors le plus connu actuellement, c'est WoW. World of Warcraft. World of Warcraft, ça fait 5 ans qu'il est sorti en France, exactement, parce qu'il est sorti en février 2005. Plus de 11 millions de joueurs dans le monde, donc c'est un vrai phénomène interplanétaire, complètement hallucinant. Sinon que l'éditeur c'est Blizzard et que Blizzard il a déjà fait d'autres types de jeux vidéo sur le même modèle comme Diablo 2. Il y en a d'autres que World of Warcraft. Il y a DAOC, Dark Age of Camelot, peut-être vous connaissez. Guild Wars, et le premier, EverQuest. Et un autre, pour les plus jeunes en général, qui s'appelle Dofus aussi, qui a un peu un autre univers, mais qui est sur le même principe. Qui est sur le même principe. Alors, quels sont les principes de ce type de jeu ? Pourquoi ces jeux vidéo-là, ils sont plus accrocheurs que d'autres ? Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, plutôt qu'un autre, il va faire que je vais m'enfermer petit à petit dans le jeu ? Il y a trois éléments qui font que ces jeux sont particulièrement addictifs. Trois éléments accrocheurs, on va dire, plutôt. Trois éléments accrocheurs. Le premier, c'est qu'on incarne un personnage. Le représentant du joueur dans le jeu, c'est un personnage de pixels qu'on appelle un avatar, ça sans doute vous le savez, et que très généralement, pour pouvoir avoir un bon personnage, enfin un personnage de bon niveau, essentiellement, malheureusement, dans ce type de jeu, c'est moins l'habilité qui va faire que je vais avoir un bon personnage que le temps que j'y investis. En réalité, pour avoir un bon personnage, il faut, m'avait dit un bon joueur, il faut compter une bonne vingtaine de jours. Mais pas une vingtaine de jours comme ça, c'est-à-dire qu'il faut multiplier 20 par 24 heures. Ça veut dire que pour obtenir un bon personnage, il faut environ jouer 500 heures. Forcément, ça crée un lien, une relation avec ce personnage, etc. Ça, c'est le premier élément qui est assez accrocheur. D'autant plus que ce personnage, en général, il a un certain nombre de pouvoirs magiques, il a pas mal de possibilités, il a la possibilité, par exemple, de mourir et de revivre, ce qui est quand même une caractéristique assez rare. Donc, ce qui est aussi assez attractif et assez intéressant. Le deuxième élément qui est particulièrement accrocheur, c'est le fait que ces mondes se développent dans ce qu'on appelle des univers persistants. J'avais déjà utilisé ce terme au début de la conférence, persistant, c'est-à-dire que le monde, par exemple le monde de Warcraft, il se développe sur lui-même. Dans un jeu traditionnel, si jamais je m'absente du jeu, si jamais je sors, le jeu s'arrête. Dans un jeu type MMORPG, même en mon absence, le jeu continue à se développer sur lui-même. Ça veut dire que je peux être ailleurs, je peux être par exemple en cours et être préoccupé par ce qui se passe dans le jeu. Parce que dans le jeu, il va peut-être y avoir des échanges marchands, il va peut-être y avoir des batailles, il va peut-être y avoir des aventures à vivre et je n'y serai pas. Donc ça, c'est un élément qui fait que c'est particulièrement accrocheur. L'autre élément qui rend tout à fait, qui va avec cette idée d'univers, c'est que ce genre de jeu est infini. Dans un jeu classique, on va prendre par exemple aux échecs, l'issue de la partie, elle est qu'il y a un vainqueur et il y a un perdant. Dans les jeux de rôle en ligne, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin et ce phénomène, il est entretenu par les éditeurs de ces logiciels. Je fais juste une petite aparté, mais il faut savoir que les éditeurs de ces logiciels, peut-être ça ne vous dit rien du tout, mais celui qui détient actuellement Blizzard, qui produit World of Warcraft, c'est Vivendi. Vivendi, c'est une grosse boîte française, très enrichie. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que ces gens-là, ils ont tout intérêt à vous garder sur le jeu. Le jeu, il coûte 30 euros à la base, et l'abonnement, il coûte 12 euros par mois. 12 millions de joueurs dans le monde, multipliés par 12 euros, multipliés par 12, je vous laisse faire le calcul, ça fait une sacrée somme d'argent pour ces gens qui organisent ce type de jeu. Donc, eux, ils ont tout intérêt à vous garder dans le jeu. Imaginez que vous ayez commencé à jouer à World of Warcraft il y a 5 ans. Forcément, en 5 ans, j'ai le temps d'explorer beaucoup de territoires différents, tous les territoires. Et les aventures sont merveilleuses. C'est magnifique, hein, World of Warcraft. Moi, je trouve que c'est un très beau jeu. Sauf qu'au bout de 5 ans, j'aime mieux vous dire que vous avez fait le tour des territoires. Vous avez tout exploré, vous avez tout vu, vous avez à peu près tout essayé. Ben, les éditeurs ont pensé à vous. Ils vous ont créé des extensions qui vont vous permettre des add-ons, qui vont vous permettre de rajouter des bouts de territoire à explorer avec des nouvelles aventures. Donc cette caractéristique d'infinitude, elle est renforcée par les éditeurs de ces logiciels ludiques. C'est infini aussi parce que finalement l'objectif du jeu, il n'y a pas réellement d'objectif dans le jeu à part équiper son personnage. Il y a des quêtes sans cesse qui vous sont proposées, il y a toujours quelque chose à faire, donc c'est aussi ça qui fait que c'est infini. Et il y a un troisième élément qui fait que c'est particulièrement attractif et particulièrement accrocheur, c'est le groupe. Pareil, ça c'est une décision des éditeurs de logiciels ludiques. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que ça serait plus intéressant si on était obligé en tant que joueur de se regrouper. Et pour ça, c'est simple, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus tuer les monstres que vous rencontrez, ils sont beaucoup trop forts pour vous, il faut forcément s'allier avec d'autres joueurs. Pour pouvoir tuer toujours plus de monstres, de boss qui sont toujours plus puissants. Et bien évidemment, à partir du moment... Donc les joueurs se regroupent dans des groupes qu'on appelle des guildes, des guildes qui sont plus ou moins structurées, avec un chef de guilde, des officiers, des sous-officiers, des novices, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien on se donne des rendez-vous. On se donne un rendez-vous, alors très généralement l'heure à laquelle on va le plus jouer à ce type de jeu, c'est plutôt après 20h, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui ont des activités dans la journée et donc ne peuvent pas se permettre de jouer. Et donc on se retrouve plutôt vers 20h, tranquillement comme ça, et on s'y met à plusieurs, à une dizaine, à une douzaine, voire jusqu'à une quarantaine de joueurs à la fois. Et on se coordonne uniquement, souvent en time speak, donc sans se voir, on se coordonne pour mener tous ensemble une action, pour réaliser tous ensemble une quête. Mais imaginons que le même soir, le vendredi soir, justement, où j'ai rendez-vous avec tout le monde, tous ces gens de ma guilde, le même soir, mes parents m'annoncent qu'on va dîner chez la tante Miselle. Ah, ben moi, je vais être très embêtée. Et mes parents, en général, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Ils vont se dire, ben non, ils préfèrent son ordinateur. Moi, c'est pas mon ordinateur que je préfère, c'est le fait que j'ai donné ma parole, que j'ai un engagement vis-à-vis de mon groupe. Donc, ce que ça crée, cette troisième caractéristique, cette idée du groupe, ça crée une interdépendance entre les joueurs. On se sent responsable. Après tout, les autres m'attendent, il faut que je sois dans le jeu. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui, au fur et à mesure... de leur investissement dans le jeu, n'arrivent plus à refuser d'être présents sur une quête, sur une instance, et donc du coup ont du mal à se sortir de ce jeu. Oula. C'est pas moi. Si, c'est moi. Alors, ça c'était pour comprendre quel type de jeu, pas n'importe quel type de jeu vidéo. Donc vous l'avez compris, c'est des jeux qui se déroulent sur ordinateur, en ligne, donc avec Internet, et c'est pas forcément tous les jeux vidéo. Pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de situation qui concerne, par exemple, des jeux sur console. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent passer pas mal d'heures sur des jeux sur console, mais au moment où on commence, quand on a fait le tour d'un jeu sur console, on s'arrête. On se dit, bon, ça va, quoi. C'est un peu... Voilà, assez naturellement. Mais par contre, c'est vrai que pour ces jeux-là, ces MMORPG, au fur et à mesure du temps, c'est une activité qui peut s'installer. D'ailleurs, la plupart des joueurs que je rencontre, ce sont majoritairement des garçons. Bon, très grande majorité de garçons sur ce type de jeu. Mais la plupart des joueurs, ils me disent au début, bon, moi je me suis acheté le jeu, j'avais pas l'intention de devenir un joueur professionnel ou plutôt un joueur addict. Je pensais juste jouer comme j'ai pu jouer à plein d'autres jeux vidéo dans le passé, voilà. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que si je voulais m'améliorer, si je voulais être meilleur, si je voulais être peut-être le meilleur de ce jeu, il fallait que je m'y investisse toujours plus de temps. Et au début, je jouais peu, mais au fur et à mesure, c'est devenu 3 heures, 4 heures, 5 heures, et je me suis mis à tarder comme ça dans la nuit de plus en plus. Parce qu'après tout, quand on veut jouer à un jeu, enfin, ou généralement, quand on joue, c'est pas pour perdre, c'est plutôt pour gagner. Donc on a envie de se dépasser, d'améliorer tout le temps ses compétences, et on se laisse entraîner. Comme dans ce type de jeu, je vous le rappelle encore une fois, dans ce type de jeu, pour progresser, il faut surtout du temps, pas tant d'habilité, du temps, du temps, du temps. Donc du coup, j'y passe de plus en plus de temps, et au bout d'un moment, j'investis, parce que le temps, c'est pas extensible. Hein. Sur une journée, à 24 heures, ça restera toujours 24 heures. Du coup, si je consacre encore plus de temps à mon jeu, et toujours plus de temps à mon jeu, j'en consacre de moins en moins à toutes les activités que j'avais auparavant. Ah oui, c'est pas celui-là. Voilà, d'accord. Alors, généralement d'ailleurs, ce qui se passe, et ce que décrivent la plupart des joueurs, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils investissaient toujours plus de temps dans le jeu, au fur et à mesure, ils diminuaient les autres activités, que ce soit les activités sportives, culturelles, familiales, de voir les copains, les sorties, etc. Et au fur et à mesure, pour ne plus que se consacrer à cette unique activité qui était de jouer aux jeux vidéo. Alors, la baisse d'envie de s'investir dans ces activités qu'on faisait auparavant, que ce soit le sport, les études, la famille, etc., c'est dû à plein de choses différentes. Hein. On peut avoir moins envie de s'investir dans ces activités par ennui ou par manque d'intérêt ou parce qu'on a d'autres préoccupations, très généralement, parce qu'on n'a plus envie de s'intéresser à tout ça. On est plus pris par d'autres types de préoccupations qui sont souvent liées au changement de l'adolescence, en fait. À d'autres questions. Ou aussi, et ça c'est souvent le cas des joueurs que je rencontre, les préoccupations, elles sont dues à d'autres difficultés de l'existence pour lesquelles on n'a pas de solution. On se sent, généralement, les joueurs me disent, voilà, la situation n'était pas terrible à la maison, ou ça se passait pas terrible à l'école, et moi, j'avais pas de solution, je me sentais pas trop à la hauteur, je savais pas trop comment faire, et il y avait ce jeu dans lequel j'avais tendance à fuir. Hein, c'est ce que disent la plupart des joueurs. Le jeu, c'est un peu un refuge, c'est un peu une manière de se mettre de côté, de plus s'occuper du quotidien, d'échapper à toutes ces contrariétés du quotidien. En plus, ces jeux-là, c'est généralement des jeux qui se déroulent dans des univers enchantés. C'est magique, c'est bien plus attractif, il est vrai, que par certains aspects, en tous les cas, que le journal télévisé de 20h, où on ne vous parle que de crise. C'est certain que parler magie, sorcellerie, et puis de monstres merveilleux, ça a quelque chose de plus attractif, de plus gai, de plus délassant, certainement, que la crise. Donc, très généralement, le jeu, ça a constitué un refuge, une échappatoire. Alors, dans la majorité des situations, parce que vous imaginez bien que 12 millions de joueurs sur World of Warcraft, il y en a très très peu qui sont des joueurs excessifs, des joueurs accros. Moi, dans ma consultation, j'ai fait un peu un bilan là dernièrement, et depuis qu'on a officialisé la consultation à Marmottan, on a reçu 250 joueurs de ce type de jeu, de MMORPG, avec différents types de MMORPG. Donc c'est pas énorme. La plupart du temps, en fait, la plupart des joueurs vont avoir un investissement excessif dans ce genre de jeu, mais ça sera un investissement provisoire. La plupart des joueurs vont évoluer avec le jeu, et puis au bout d'un moment, ils vont en avoir marre parce que c'est routinier, parce que c'est très répétitif aussi. On est tout le temps un peu en train de faire les mêmes choses, et puis parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes dans la vie, que Internet c'est merveilleux, mais qu'on peut aussi avoir des relations avec les autres sans Internet. Donc dans la majorité des situations, rien de grave, juste une passion dévorante pour quelque temps. Et puis pour certains, pour quelques-uns, eh bien ça va pas s'arrêter là, ça va pas rester une activité transitoire, ça va se poursuivre cette activité, des fois pendant des années. Et c'est là que ça commence à poser des problèmes. Alors les problèmes qu'on rencontre généralement, c'est des problèmes déjà liés au rythme du sommeil. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart de ces jeux, ou même des blogs ou des Facebook et compagnie, ils sont surtout investis le soir. Donc une fois que je suis le soir face à mon ordinateur, entre 20h et minuit, voire 2h, 3h, 4h du matin, 5h, et alors là, pour se lever le lendemain, c'est très compliqué. Forcément, le matin, j'ai un peu plus de mal à me lever. Donc, déjà, il y a un bon décalage au niveau du rythme biologique. L'autre chose aussi, l'autre élément qui est touché en général, c'est l'alimentation. Parce que je ne veux pas quitter mon ordinateur, même pour manger. Donc, je commence à manger vite fait devant l'ordi, un petit peu comme ça, un sandwich, un machin, enfin, ce que je trouve. Et alors, pour certains, c'est carrément soit une suralimentation, enfin une mauvaise alimentation, soit plus du tout d'alimentation. Alors, je vais loin, mais il y en a même qui me racontent avoir pissé dans des bouteilles pour éviter de se déscotcher de l'ordinateur. Bah ouais, ça me fait marrer, mais c'est vrai. C'est vrai. Pour éviter de se déscotcher de l'ordinateur, hein, tellement ça les tient. Mais la principale conséquence et la plus embêtante, c'est l'isolement social. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, un joueur excessif et qui vraiment investit le jeu depuis longtemps, au fur et à mesure, eh ben, il investit plus que le jeu et plus les autres activités. Du coup, il commence à ne plus connaître des gens que par l'intermédiaire de son jeu. D'ailleurs, souvent, ils ont la sensation d'avoir perdu un certain nombre d'habiletés sociales, notamment sur le fait de rencontrer les autres. Comment est-ce qu'on rencontre d'autres gens ? Qu'est-ce qu'on leur dit quand on n'est pas protégé par un écran ? Comment on peut réagir ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ? Est-ce que je ne vais pas avoir l'air ridicule ? Etc. C'est toutes ces questions-là, souvent, que... eux-mêmes se posent, et ce qui fait qu'ils ont du mal à aller vers les autres. Donc non seulement, généralement, ils ont trop investi le jeu, ils connaissent plus que des gens à travers le jeu, mais en plus de ça, ils ont l'impression d'avoir perdu des compétences sociales. Du coup, ils n'osent plus aller vers les autres. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que comme ils n'ont plus de connaissances, on va dire IRL, real life, dans la vraie vie, comme ils n'ont plus d'amis, ils ont tendance à se replier encore plus sur le jeu, encore plus investir le jeu et investir ses amis du jeu. Parce que, après tout, ces jeux-là, ils sont quand même vachement bien foutus. Et c'est sur le jeu que je prends mon pied, en fait. Très généralement, dans ces jeux, il y a tout un tas de raisons d'être satisfait. Il y a tout un tas de plaisirs différents que je peux obtenir avec ces jeux. Parce que dans ces jeux, je peux, par exemple, réaliser un certain nombre de mes désirs que je ne peux pas réaliser dans la vraie vie. Par exemple, je peux être très fort. Je peux choisir d'incarner justement un personnage très fort, ou je peux être reconnu, je peux avoir une place dans un groupe, je peux voler, je peux nager, je peux me dépasser, je peux aussi transgresser des lois. Très généralement, dans les jeux vidéo, on peut mourir et être ressuscité. c'est quand même assez exceptionnel. Être immortel, quelque chose dont on ne peut pas avoir le plaisir dans la vraie vie. On peut aussi tuer, ça soulage. On peut s'essayer dans des rôles qu'on ne connaît pas, voire on peut changer de sexe. Il y a beaucoup de joueurs qui vont incarner des personnages féminins. Donc, toutes ces possibilités, elles sont intéressantes, elles sont attirantes, elles sont attractives. On peut essayer plein de choses différentes et c'est très excitant. Et d'autant plus que tout ça, je peux le faire tout de suite, là, maintenant, sans attendre. En un clic, je peux passer dans une autre dimension avec toutes ces possibilités-là. Du coup, c'est vraiment plaisant. Et c'est parce que c'est vraiment plaisant que j'ai du mal aussi à en sortir. Forcément, la plupart des joueurs, généralement, quand ils viennent me voir, ils me disent « Mais moi, j'ai pas de problème avec le jeu. Tous mes problèmes, ils sont autour du jeu. Mes problèmes, ils sont avec la scolarité, mes parents, etc. » Mais le jeu, non. Ah non, dans le jeu, il n'y a pas de problème. Dans le jeu, tout se passe bien. Dans le jeu, je suis le meilleur. Dans le jeu, je suis respecté. Dans le jeu, on me regarde bien. Dans le jeu, j'ai mon utilité. Et tout ça fait que j'ai plaisir à y être et je veux y rester. Mais au bout d'un moment, et c'est ce que je disais, je reviens à cette question de l'addiction, au bout d'un moment, en fait, on tourne en rond dans ces jeux. C'est ce que me disent les joueurs. On tourne en rond. Une fois qu'on a fait la plupart des choses qui étaient intéressantes, c'est-à-dire monter son personnage en aptitude, une fois qu'on s'est essayé à plusieurs quêtes, à plusieurs instances, et bien généralement on tourne en rond. Mais ça peut être difficile d'en sortir. Voilà.
Je ne sais pas s'il reste...
Non, c'est bon. Juste pour terminer, c'était de vous alerter, j'espère que vous aurez plein de questions, sur l'usage et les pratiques d'Internet et de vous inviter à rester critique à l'égard de tout ce que vous pouvez recevoir par l'intermédiaire d'Internet. Voilà, je vous remercie.
C'est dans les temps ?